Bonjour, une autre émission de rencontres spirituelles, et nous avons aujourd'hui des rencontres avec des gens vraiment remarquables. Il y a les Carmélites de Compiègne que l'on célèbre aujourd'hui, les fameuses Carmélites de Compiègne, qui sont à la source des écrits de Gertrude von Lefort, cet écrivain allemand extrêmement importante, ou écrivaine si vous préférez, ainsi que Georges Bernanos, qui a écrit « Dialogue des Carmélites », n'est-ce pas? Et ça a été tourné, on a fait un film, n'est-ce pas? C'est Brick Berger et Agostini qui en ont fait un excellent film, avec comme comédienne Jeanne Moreau, Pascal Audrey, etc. Et puis, il y a aussi... mon Dieu, dans les collections de la Guilde chrétienne, à la fin, il y a un très beau texte aussi sur les Carmélites de Compiègne. En tous les cas, ce sont des femmes dont on a beaucoup parlé. Il y a même un opéra de Poulenc. De toute façon, nous allons parler de ça. Et après ça, pour compléter l'émission, nous allons parler de quelqu'un d'extraordinaire, un des plus grands personnages spirituels de ce siècle, à mon avis. C'est le père François Varillon, jésuite, décédé le 17 juillet 1978, il n'y a pas bien longtemps, comme vous voyez, 17 ans seulement. Mais quel homme qui a écrit « Joie de croire, joie de vivre ». Et auparavant, ça c'est une œuvre posthume, avant de mourir en 78, il avait publié « L'humilité de Dieu »,« La souffrance de Dieu » et aussi un débat sur la foi avec Marcel Legault, où il a publié un ouvrage sur Fénelon, un ouvrage sur Claudel, très très réputé. Enfin, c'est un homme fantastique et je crois que nous allons passer une belle heure en compagnie de ces gens-là. Je voudrais commencer tout d'abord avec les Carmélites de Compiègne. Donc, j'ai oublié de m'identifier, Raymond Beaugrand-Champagne au micro. Donc, il y a eu deux siècles, on peut dire, de littérature... d'agiographie, de toutes sortes de choses, sur les Carmélites de Compiègne. Il y a cette œuvre dramatique célèbre, n'est-ce pas, dont je viens de vous parler, des adaptations lyriques d'opéra, n'est-ce pas, comme celui de Poulenc, des films, plusieurs. Hein, puis ça perpétue donc la mémoire de ces bienheureuses Carmélites de Compiègne. Compiègne se situe au nord-est de Paris. C'est une ville réputée d'abord pour son château, le château de Compiègne, meublé de meubles empire assez retentissants, n'est-ce pas, le style empire indique plutôt le pouvoir de Napoléon, il y a près de 200 ans. Et non loin de Compiègne, il y a un village très important qui s'appelle Trelibreuil. C'est à Trelibreuil que Jean Vanier, notre compatriote, a fondé le premier arche, qui s'est multiplié, ils sont une centaine d'arches maintenant dans le monde, il y en a plusieurs au Québec, il y en a eu à Montréal. Et alors, c'est à Trelibreuil que je suis allé d'abord dans les années 60 faire un film sur Jean Vanier, et Madame Vanier en voulait une copie d'ailleurs, parce qu'elle avait beaucoup aimé les témoignages de son fils dans ce film, les vues que mon caméraman avait prises de certains des... pauvre malade, n'est-ce pas, qu'elle aime et qu'elle a, auprès desquels elle est morte il n'y a pas si longtemps. Et alors, j'y suis retourné souvent, d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré aussi des gens que j'ai interviewés à rencontre, des gens magnifiques, merveilleux. Et alors donc, l'histoire des Carmélites de Compiègne, leur légende, ça tournait un peu comme un étendard contre... ce qui pouvait y avoir de positif dans la Révolution française, car il faut, nous, catholiques, bien comprendre que dans la Révolution française, il n'y a pas que des mauvais points. Elles sont mortes sous la terreur, mais c'était un moment épouvantable d'anticatholicisme effrayant, et je suis le premier à me désoler de la haine qui habitait ces gens-là. C'était une haine similaire à celle qu'on a pu voir à Montréal dernièrement, quand des catholiques sont sortis d'une église, qui est simplement l'église Notre-Dame, sous la haine déchaînée de toute une partie d'une certaine jeunesse, et même de gens, d'adultes, qui avaient perdu, on dirait, la raison. Et c'est ce qui se passe, d'ailleurs, au moment des révolutions comme ça. Alors donc, c'est une tragique histoire, Et ça témoigne tout ça d'une espèce de divorce. Un peu un divorce exacerbé, n'est-ce pas, qui animé par des passions humaines et politiques absolument contradictoires. Hein. Alors le recul du temps, je crois, nous permet aujourd'hui de mieux comprendre la réalité et le sens des faits historiques. Et il ne s'agit pas de faire de cette journée, en parlant des carmélites de Compiègne, une espèce d'exploitation partisane contre des gens qui ne partagent pas la foi catholique, mais qui se sont laissés aller, momentanément du moins, à des crimes épouvantables. Et vous savez que sous la Terreur, il y a eu beaucoup moins de morts qu'on ne pense. C'est environ 1400 morts. C'est déjà énorme. Mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas s'imaginer qu'ils en ont tué 200 000 ou je ne sais quoi, là. Et alors donc, le Carmel de Compiègne a été fondé en 1641, je tiens à signaler, grâce à la reine Anne d'Autriche. Au début, bien, les Carmélites ont été, grâce à cette reine Anne d'Autriche, elles ont logé dans une aile du château royal de Compiègne, le château dont je vous ai parlé tout à l'heure, en attendant la construction du couvent qui a été inauguré 7 ans plus tard, en 1648, et consacré à Notre-Dame de l'Annonciation. Et c'est une belle fête que Notre-Dame de l'Annonciation. C'est une fête qui nous rappelle la grandeur de la vie humaine. Oui, de la vie humaine. Oh, ce n'est pas que ça, évidemment, c'est l'incarnation de Dieu dans le sein de Marie. Mais ça se célèbre exactement 9 mois. Avant Noël, le 25 mars, et ça nous rappelle que dès le début, Dieu était présent dans Sainte-Marie, petite cellule qui s'est multipliée. Oh, les gens qui sont pro-choix ne m'aimeront pas, mais je crois que pour nous chrétiens, à tout le moins, c'est un signe que notre conception de la vie est non seulement établi sur la foi, mais aussi sur la science. Je développerai ça un jour, sur les questions biologiques qui font que de nombreux athées sont de la vie, que dès le début de la vie humaine, il y a quelqu'un. Et alors, jusqu'à la Révolution, ben, les Carmélites ont eu des rapports très très étroits avec la famille royale, avec la cour, qui séjournait fréquemment à Compiègne. Et le jeune Louis XIV a été élevé près de ses sœurs, et Madame de Maintenon, puis la reine Marie Leszczyńska, ont pris le couvent sous leur protection. Hein. Elles ont souvent doté des religieuses pauvres. Elles leur ont rendu de fréquentes visites, car elles allaient au château de Compiègne. Il faut pas oublier que cette famille royale, énorme, très nombreuses, avaient d'innombrables châteaux. Qui payait pour ça, hein? Les pauvres ouvriers, les paysans, qui étaient grandement exploités. Hein? Faut pas oublier ça. Il y avait des saints, il y avait des gens admirables parmi les membres de la famille royale. Prenons simplement Louis XVI, dont je vous parlerai sans doute au mois de janvier prochain. La mort de Louis XVI est une mort admirable. Et pourtant, que d'abus certains nobles, pour pas dire une grande partie des nobles, que d'abus ils ont fait. En 1790, donc, au moment de la Révolution, ce couvent comptait simplement 13 professes, 13 femmes, donc, qui avaient fait des vœux pour toujours de rester dans ce monastère, ce Carmel. Il y avait là une novice, et il y avait aussi 3 converses, c'est-à-dire 3 sœurs, qui n'étaient pas des moniales de cœur, c'est-à-dire c'était des moniales, je ne dirais pas des servantes, faut pas prendre ça comme ça, mais ce sont des femmes qui, n'ayant pas l'instruction et parfois non plus toute l'utilisation de leur intelligence comme elles le souhaiteraient, certaines d'entre elles, pas toutes, les converses sont parfois très très intelligentes, et alors donc on les accepte et elles peuvent mener une vie admirable, et ce sont souvent d'ailleurs ces femmes-là, les plus humbles, comme chez les moines, les frères converts, qui sont les saints du monastère, je vous en ai déjà parlé. Donc ces sœurs étaient âgées de 26 ans à 75 ans, et la plupart étaient d'origine extérieure à la ville de Compiègne, elles étaient de bonne famille, n'est-ce pas? Exemple, sœur Joséphine Marie de l'Incarnation. Eh bien, c'était Madame Philippe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Madame Philippe? C'est la fille naturelle du prince de Conti. On les appelait comme ça, n'est-ce pas? Madame Thérèse de Saint-Augustin, elle qui était la prieure, c'était Madame Lidoine, qui avait été dotée en 1773 par la dauphine Marie-Antoinette. Alors donc, il y avait des nobles là-dedans, de grands nobles. Peut-être c'est un ordre austère que le Carmel, c'est un ordre fermé, c'est fidèle aux traditions. Il faudrait que je vous parle un jour du Carmel comme il faut, d'où ça vient. Mais j'en parlerai peut-être ces jours-ci à l'occasion de la fête de Saint-Élie, dont on dit qu'il serait le fondateur du Carmel. Bon, enfin, on verra. C'est très intéressant et c'est un peu spécial. Donc, le Carmel de Compiègne était très réputé pour sa dévotion, sa bonne entente, sa charité. Le 5 août 1790, en application de la nouvelle législation, ben, l'administration du district a dressé l'inventaire des biens du couvent. Ils ont interrogé les religieuses sur leurs intentions. Et comme toute... les consoeurs des autres établissements féminins, là, des autres couvents de Compiègne, ben, les Carmélites ont déclaré qu'elles voulaient vivre et mourir dans leur sainte maison, comme elles disaient, leur sainte maison. J'ai déjà entendu de vieilles religieuses parler de leur sainte maison quand elles parlent de leur couvent. C'est du vocabulaire de religieuses qui a un sens profond. On n'a pas à rire de ces vieux mots d'autrefois. Et alors... la jeune novice, sœur Constance, elle n'avait pas émis ses vœux, mais elle disait la même chose. Les carmélites sont demeurées paisiblement en communauté. Elles ont bénéficié d'un certain respect des autorités qui les aimaient bien quand même. Elles n'ont pas été inquiétées par des manifestations d'hostilité. Vous savez, la Révolution française, je le vous l'ai déjà dit, ce n'est pas que des criminels qui l'ont faite. Hein. Et le 11 février 1791, ben, l'administration a présidé dans le couvent à l'élection d'une prieure. C'est Madame Lidoine qui a été élue, là, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, Mère Thérèse de Saint-Augustin, c'est un très beau nom, Thérèse d'Avila, Saint-Augustin, ce sont de très beaux noms. Hein. Et alors, ils ont aussi élu une économe qui était Madame de Croissy, c'est une autre noble. Et alors, tout inclinait les carmélites de Compiègne à résister à la nouvelle organisation de cette église qui était mise en place par la Révolution et à rallier le point de vue de leur directeur de conscience, l'ex-jésuite Pierre-Edmond Carlet, qui sera exilé en novembre 1792 comme agitateur réfractaire. Et dans son récit hagiographique, qui est paru en 1836, une sœur qui n'est pas morte dans ce massacre, parce qu'elle était absente du couvent momentanément, c'est sœur Marie de l'Incarnation. Elle était rescapée en 1794, quand les autres ont été tués. Mais elle situe aux alentours de Pâques une espèce de songe prémonitoire de martyr qu'aurait fait une religieuse. Elle aurait vu la communauté tout entière qui aurait alors juré de faire un acte de consécration par lequel elle s'offrait, disait-on, en holocauste pour apaiser la colère de Dieu. Imaginez, on développera ça tout à l'heure, cette façon de voir Dieu comme une espèce de Moloch qui aime les holocaustes humains, qui est en colère. Nous le traiterons tout à l'heure avec François Varion. Mais c'était la spiritualité de cette époque, et on n'a pas à en rire et en diminuer, car c'était plein en même temps d'un amour profond de ce même Dieu, à travers Jésus-Christ, qui est le témoignage de l'amour total, et grâce à l'Esprit-Saint qui les habitait. Et alors, ils voulaient obtenir que la divine paix soit rendue à l'Église et à l'État. Et cette... vision a été développée, n'est-ce pas, dans la pièce de Bernanos, Dialogue de Carmélite. Ça renouait avec la vocation de l'ordre réformé par Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Et après la chute de la monarchie, la législative a fait fermer les derniers couvents par le décret du 18 août 1792. Les Carmélites de Compiègne ont dû quitter le leur le 12 septembre. Le 12 septembre. Les autorités locales leur ont conseillé alors la plus grande prudence. Puis ils les laissèrent s'installer dans 3 maisons voisines les unes des autres, près de l'église Saint-Antoine à Compiègne, où elles ont mené, sans être inquiétées, une vie communautaire fort discrète. Mais la situation du culte catholique était maintenue sans grave difficulté à Compiègne, mais dans le cadre de cette espèce d'église constitutionnelle, c'est-à-dire l'église catholique érigée par la Constitution, avec des serments qui n'étaient pas permis par les catholiques les plus fervents, eh bien, ça s'est pas dégradé vraiment jusqu'à l'automne de 1793. C'est à ce moment-là. Ça commence vraiment le drame à l'automne 93. La société populaire, les autorités locales ont lancé tout à coup une offensive extrêmement brutale contre la pratique catholique. Là, on a fermé les églises qui étaient reconverties au culte patriotique. De quoi? Le culte patriotique de la raison, la déesse raison. On voit ça dans des films, vous savez, ces statues immenses, une femme assise sur un trône, c'est la déesse raison, qui lutte contre la foi. Hein. Alors, c'était l'abjuration forcée des prêtres qui devaient nier leur sacerdoce et qui devaient être réduits à l'état laïque. On a détruit quantité d'objets religieux, c'est incroyable, les statues devant les églises, vous savez, c'était effrayant, on tranchait la tête des statues, on brisait les autels, les tabernacles, les vases sacrés, les vitraux même, on s'est attaqué aux vitraux, c'était absolument épouvantable, parce qu'on associait le catholicisme à l'ancien régime dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cet ancien régime royal qui était absolutiste, n'est-ce pas, c'était la monarchie absolue, c'était féodal. Hein. Et là, le comité révolutionnaire de Compiègne a cependant limité la répression du clergé à l'internement, un internement préventif, de simplement quelques prêtres qui étaient suspectés d'être de sang noble, d'être des aristocrates, mais ils ont absolument pas inquiété les personnes pour leur opinion religieuse. Ils sont allés mollo, comme on dit. Et c'est en réalité un malheureux concours de circonstances locales et nationales qui a été fatal aux carmélites. C'était quelque peu obscurci par les versions qu'on a faites du martyre des carmélites. Alors, ça peut être reconstitué pour l'essentiel grâce aux archives, et je vais me limiter aux faits authentiques. Les religieuses, faut le dire, entretenaient une correspondance très imprudente avec l'extérieur. Elles exprimaient sans détour leur hostilité à la Révolution. Et dans ces textes-là, ça a suscité chez les révolutionnaires une espèce de haine contre les carmélites, parce qu'ils ont découvert le 21 juin 1794, quand ils ont fait une perquisition, ils ont découvert ces textes-là et bien d'autres choses dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, les révolutionnaires à Compiègne, qu'on appelle les Jacobins, n'est-ce pas, ils avaient beaucoup de difficultés à reconvertir le culte de la raison, auquel ils avaient donné un contenu athée, en celui de l'être suprême. Oui, il y a eu une évolution. Au début, le culte de la raison, puis ensuite, l'être suprême. Alors, ils ont essayé de promouvoir ce culte à Dieu seul, là, l'être suprême. Et Robespierre, lui, s'efforçait de surmonter tous les troubles assez difficiles, les divisions qui étaient suscitées par une guerre antireligieuse. C'est assez surprenant, on a toujours de l'idée de Robespierre comme étant un affreux criminel total, mais il y avait chez lui quelques bons points. Hein. Et ses adversaires politiques au sein du même gouvernement se sont servis de ses positions religieuses pour mener d'ailleurs contre lui cette campagne, puis il a fini par en mourir, hein. C'est assez surprenant, il faut bien savoir ça. Hein. Alors donc, l'ordre de perquisition chez les religieuses aux carmélites de Compiègne est venu de ces gens-là qui étaient contre Robespierre d'ailleurs. Et l'arrestation des carmélites a été motivée donc par les écrits compromettants. Là, il y avait un portrait de Louis XVI, il y avait des images du Sacré-Cœur. Oui, c'était un signe, ça, du ralliement des Vendéens. Vous savez qu'en Vendée, ben pas loin de la Normandie, là, la Bretagne, les Vendéens étaient très contre la Révolution. Hein. Et leur image principale, c'était le Sacré-Cœur de Jésus, le Sacré-Cœur de Marie. Il y avait là aussi une correspondance, hein, comme je vous ai dit, qui était vraiment favorable aux royalistes et aux prêtres réfractaires. Alors là, les carmélites ont été enfermés dans l'ancienne maison des Visitandines, avec des religieuses anglaises qui venaient de Cambrai, en France, oui, parce qu'elles avaient de la difficulté à vivre en Angleterre, hein, l'Angleterre anglicane. Elles ont été, ces Anglaises, internées à Compiègne avec les carmélites. Alors là, le comité de la ville de Compiègne, les révolutionnaires, ont envoyé l'ensemble du dossier à Paris. qui a ordonné le 12 juillet de transférer les 16 carmélites de Compiègne pour comparaître devant le tribunal révolutionnaire de Paris le 17 juillet. Alors, c'était un affreux voyage qui a duré 3 jours sous un soleil brûlant. Elles n'ont pris aucune nourriture et arrivées à la conciergerie, la fameuse conciergerie, hein, vous avez visité ça, ceux qui sont allés à Paris, on voit tous là, c'est assez affreux, c'est là que la famille royale d'ailleurs a péri, hein, dans la ce qu'on appelle la conciergerie à Paris, en plein cœur de Paris. Hein. Alors donc, arrivée à la conciergerie, bien l'une qui était très âgée n'est pas parvenue à descendre. Elle a été jetée à terre par des révolutionnaires. Elle s'est relevée ensanglantée. Elle était très âgée. Et elle a dit avec douceur, et les témoins sont là pour le dire, hein, parce que ça a changé le cœur de beaucoup, beaucoup de révolutionnaires, l'attitude des carmélites. Elle a dit, je vous remercie de ne pas m'avoir tué, car j'aurais manqué le bonheur du martyr. Mais oui, c'est le martyr chrétien est un martyr d'amour. J'écoutais hier une émission sur RDI, sur les islamistes, les musulmans les plus fanatiques, là, pas les vrais musulmans, mais les autres, là, ceux qui sont révolutionnaires, et qui parlaient de martyrs en s'offrant comme assassins pour tuer 10, 15, 200 personnes, et ensuite ils sont tués, ils sont considérés comme martyrs. Quelle étrange façon d'envisager le martyr. J'espère que tous les musulmans ne pensent pas comme ça. Et justement, d'ailleurs, dans l'émission, on nous a montré des musulmans qui ne pensaient pas, d'ailleurs, comme ça, et des musulmans admirables. Mais alors, le martyr chrétien est un martyr de bonheur, d'amour. Alors donc, elles ont été écrouées, les carmélites de Compiègne, à la prison de Paris, et la mère prieure a composé sur l'air de la Marseillaise un chant de combat, dans lequel elle exprimait l'élan de leurs âmes vers le bonheur éternel, le bonheur indicible de ces femmes folles de Dieu, au fond. Car ce sont de 12 victimes, et elles deviennent des conquérantes, pour ainsi dire, héroïques. Alors, il y a Madame Lidoine, n'est-ce pas, dont je vous ai parlé. Il y a Marianne Brideau, qui est joyeuse devant le martyr. Il y a Marianne Piécourt, qui est octogénaire, et qui s'est adressée au bourreau en lui pardonnant juste au moment de sa mort. Marie-Claude Brard, qui est attentive à rester humble devant la mort. Anne-Marie Touret, qui est effrayée à la pensée du martyr. Elle a peur, elle a vraiment peur. Et au dernier moment, elle trouve une force suprême, ou dans l'amour qu'elle a pour Jésus. Et Marie-Françoise de Croissy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une amie des lettres, une femme cultivée, elle chante en un poème son désir profond là, de verser son sang pour le Christ. C'est un peu littéraire, un peu trop distingué peut-être, mais sa culture finalement s'exprime dans son amour. Culture de l'époque. Hein. Et Marianne Anisset, puis Marie-Gabrielle Trézel, qui sont tellement unies à Dieu, elles, qu'elles l'appellent ouvertement devant tout le monde, le trésor caché. C'est beau, c'est très beau, le trésor caché. Hein. Rose Chrétien, quel nom, hein. Elle était prédestinée, qui a apporté au cloître tout un passé de douleur humaine. Elle avait épousé son cousin, qui s'appelait Chrétien de la Neuville. Et toute jeune, elle est devenue veuve, et dans sa douleur, elle n'a voulu plus rien savoir de la religion. Comme certaines jeunes veuves à l'époque, elle s'est terrée dans sa chambre. Elle ne voulait plus rien faire. Sa chambre était tendue de noir. Et quelques années plus tard, son oncle l'a ramenée à Dieu. Son âme s'est transformée si profondément qu'elle est entrée au Carmel. Et son caractère, qui était difficile, qui était un peu prétentieux, est devenu tout humble. Elle est devenue tout ascensionnée aux autres, et les sœurs l'admiraient. À 58 ans, elle a remporté sa plus grande victoire en dominant sa peur du supplice. Puis elle a fait, avec une héroïque générosité devant la foule entière, le don de toute sa vie à Dieu. Et Anne Pléras, une femme qui est extrêmement belle, qui était entrée chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, mais comme elle était très très belle, ça attirait trop les regards de tout le monde, et les gens couraient après, même si elle portait le costume des sœurs de Saint-Vincent de Paul. Alors elle a dû aller se cacher au Carmel, la pauvre. Et c'est là qu'elle a... Elle s'est retrouvée une véritable sœur de charité dans le Carmel, puisqu'elle soignait les malades. Et puis, son nom en religion, c'était Henriette de la Providence. Or, sœur Henriette de la Providence a demandé au président Cellier Ce qu'il fallait entendre par le mot de fanatique dont elle était accusée, qui figurait dans le texte du jugement. Elle a reçu cet aveu, j'entends par là votre attachement à ces croyances puériles, à vos sottes pratiques de religion. Ainsi donc, c'était la fidélité que ces femmes-là gardaient à leur vœu et leur attachement à la religion catholique et à la vie religieuse qui leur valait la palme du martyr. Il y avait aussi Angélique Roussel qui avait un cœur ardent, Marie Dufour qui était si parfaite, et Elisabeth Verlot qui était douce et joyeuse, dit-on, elle est morte à 30 ans. Puis en pleine jeunesse aussi Marie-Jeanne Meunier qui luttait si durement avec sa famille, elle, pour entrer au couvent. Puis enfin, il y avait les deux sœurs qui s'occupaient du service, Catherine et Thérèse Soiron, dont je vous parlerai au retour. Je vous ai dit qu'il y avait deux sœurs, Catherine et Thérèse Soiron, qui étaient nées du même père, de la même mère. Donc, la première, elle avait supplié en pleurant la mère prieure de ce Carmel de ne pas la quitter pour lui permettre de mourir comme elle pour le Christ. Elle avait peur que, éloignée de la prière, elle perdrait pied. Et l'autre, Thérèse, eh bien, qui était remarquablement belle, une autre fort belle. Vous savez qu'il y a de très belles carmélites. Hein. J'en ai déjà vu deux, moi, au Carmel de Bethléem. Alors, cette princesse de Lamballe, qui était très très belle, lui avait demandé de faire partie de sa suite. Et la princesse lui avait dit, d'ailleurs, « Soyez certaine que je vous aimerai bien et vous rendrai la vie aussi heureuse que possible. » Et Thérèse Soiron avait répondu que son Altesse lui offrirait la couronne de France, elle n'en voudrait pas. Elle disait, je préfère rester à la place où Dieu m'a mise, au Carmel, où je trouve des moyens de salut que je ne trouverais pas ailleurs. C'est ça l'affaire. Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe, est morte en 1792, dans cet épouvantable massacre qui a eu lieu pendant quelques jours. Là. C'était l'amie fidèle de Marie-Antoinette. Elle était née à Turin, puis elle a eu la tête tranchée à 43 ans. Et alors donc, le procès des 16 carmélites se situe en pleine grande terreur en juin 1794. Le tribunal révolutionnaire de Paris, qui est chargé depuis le décret du 22 mai, quelques jours avant, hein, de toutes les atteintes à la sûreté de l'État, disait-on. Alors, il y a instruit une multitude de procès expéditifs. Ça fait environ, on dit souvent 1400 victimes, d'autres disent à peu près 2000, on n'est pas sûr. Hein. Les prévenus de Compiègne, on fait partie d'une fournée de 34 personnes, de différentes conditions, qui ont été jugées très très rapidement, puis sans témoins. Hein. L'acte accusait les carmélites d'avoir formé des espèces de conciliabules de contre-révolution, et d'avoir dans le cœur le désir de voir le peuple remis au fer de ses tyrans, les nobles, et dans l'esclavage des prêtres sanguinaires. Elles auraient été dans l'esclavage des prêtres sanguinaires. Quelle farce! Alors, elles ont été accusées aussi d'avoir continué à vivre soumises à leurs règles et à leurs supérieurs. C'est dans le texte. Alors, on disait que c'était un complot royaliste, qu'elles étaient des fanatiques. Et Marie-Henriette Pelleras avait dit, j'entends votre attachement. C'est-à-dire, elle avait demandé des précisions, puis on lui avait dit, j'entends votre attachement à des croyances puériles et à de sottes pratiques de religion. C'est l'accusateur qui dit ça. Ma mère et mes sœurs, s'était écrié cette sœur dont je vous ai parlé tout à l'heure, en se tournant vers ses compagnes, elle dit, félicitons-nous, nous allons mourir pour Dieu. Et la mère Thérèse de Saint-Augustin, la prieure, a parlé au nom de toutes, puis a voulu prendre sur elle toutes les inculpations. S'il vous faut une victime, c'est moi qu'il faut frapper, avait-elle dit. Et sur les 34 accusés, durant cette séance, et 34 accusés de Compiègne, 31 furent condamnés à mort, dont les 17 dont il est question, et la sentence était exécutoire quand? Dans les 24 heures. Alors, au cours de cette parodie de procès, mais les carmélites se sont montrés d'une dignité, d'un courage qui a impressionné tout le monde. À la conciergerie, comme à Compiègne, eh bien, les 16 carmélites ont continué à observer leurs règles, et un témoin digne de foi, Denis Blot, B-L-O-T, qui a été élargi par après et a été libéré, a déclaré qu'on les entendait toutes les nuits à 2h du matin récitant leur office. C'est ce qu'il déclare, hein, c'est consigné. Le 16 juillet, donc, 1694, elles ont célébré la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel avec un tel enthousiasme. Ce sont des carmélites, hein, Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est leur patronne. Elles ont célébré ça avec un tel enthousiasme qu'au dire d'un détenu, c'est consigné, ça, la veille de leur mort paraissait un grand jour de fête pour elles, c'est ce qu'il dit. Alors, selon le témoignage ultérieur là, d'un employé de la prison qui a été recueilli par cette sœur Marie de l'Incarnation qui s'en est sauvée, elle dit « On ne saurait croire l'impression de respect que commandait le dévouement de ces généreuses victimes. Toutes, elles soupiraient après le moment de leur sacrifice. Toutes s'exhortaient à rester fermes et généreuses dans le dernier combat. Elles avaient l'air d'aller à leurs noces, dit ce témoin, à propos de leur dernier moment. Quand la charrette les a emportées, vous savez, on les transportait sur des charrettes, et on voit ça dans des films, elles étaient vêtues de leur manteau blanc de carmélite, et elles chantaient des cantiques jusqu'à la place du trône, ça s'appelle comme ça à Compiègne, la place du trône renversé, où se dressaient l'échafaud. On rapporte que la foule, impressionnée par leur sérénité extraordinaire, les a accueillies en silence, tandis qu'elles gravissaient les marches de l'échafaud au chant du Veni Créateur, c'est-à-dire « Venez, Esprit-Saint ». Et la mère Thérèse de Saint-Augustin, la prieure, a obtenu d'être exécutée la dernière. Elle tenait une petite statue de la Sainte Vierge que chacune de ses compagnes a embrassée avant de mourir en chantant le « Laudate Dominum »,« Louez le Seigneur ». Et leurs corps ont été ensuite inhumés dans une grande fosse commune qui était creusée près du cimetière du couvent de Picpus, ça s'appelle comme ça, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, où reposent tant d'autres victimes de cette révolution. Sœur Marie de l'Incarnation, celle qui s'en est sauvée, là, elle avait quitté la maison là, pour aller régler des affaires à Paris, bien elle était donc la seule à échapper à tout ça, puis elle a entrepris de recueillir des témoignages, dont je vous en ai cité un, là, sur les derniers moments de ses compagnes. Alors, le récit qu'elle a rédigé à la demande de son supérieur, l'abbé de Villecourt, d'un futur cardinal, est paru en 1836. Elle y mêlait des souvenirs personnels, des témoignages. Elle était nourrie de préoccupations un peu trop cléricales, peut-être. Mais ça demeure un texte extrêmement émouvant. Hein. Ça a forgé un peu certains aspects de la légende qui entoure ces carmélites. Mais l'essentiel, là, c'est que c'est un martyr de femmes absolument remarquables. Et elles ont été martyrisées comme les fameux prêtres religieux qui ont été massacrés le 2 septembre 1692. Elles avaient entendu parler de ça. Et nous en parlerons, ça, ce massacre du 2 septembre, le 1er septembre prochain, puisque le 2, c'est un samedi. Et alors donc, nous pouvons croire que ces sœurs sont victimes non pas de la révolution en général, mais de certains éléments intolérants égarés qui ont faussement incarné certains des grands idéaux de la révolution, ne l'oublions pas. Hein. Elles ont été animées d'une foi profonde, ces carmélites de Compiègne, qui étaient puisées dans la tradition de l'ordre du Carmel. Et cette foi s'est épanouie à l'occasion de leur destin tragique. Et elle nous apporte aujourd'hui une grande leçon de foi et de courage. Elle délivre au fond un message d'amour, un message qui peut nous apaiser dans nos difficultés. Parce que ce message constitue, je le tiens à le dire, le cœur même du véritable christianisme. Un petit livre qui est très intéressant, qui est fait pour les enfants, mais qui peut être lu par des adultes. Il est très, très bien illustré, remarquable, relié, très peu cher, intitulé « À Versailles avec Louis XIV ». C'est de Jean-Paul Albert. C'est publié par Nathan. Nathan, N-A-T-H-A-N. Les éditions Nathan. En 1991, c'est un livre à offrir aux enfants. C'est tout petit, c'est à 70 pages. C'est remarquable, aux 75 pages, il y a un index à la fin qui peut être très intéressant, de belles illustrations en couleur, tout est en couleur, c'est magnifique, un très beau livre. Donc, à Versailles avec Louis XIV de Jean-Paul Albert, ça nous donne une idée du luxe extraordinaire dans lequel vivaient ces gens. Donc, aujourd'hui, 17 juillet, c'est aussi l'anniversaire, comme je vous ai dit au début de l'émission, du décès du père François Varion, décédé il y a 17 ans, en 1978. Connaître François Varion permet de renouveler notre foi, de l'épurer. Il a publié, cet homme très jeune jésuite, des articles dans la fameuse revue Études, à laquelle je suis abonné, je ne regrette pas, je vous le conseille, Études, une excellente revue. Et alors, il a été aumônier général adjoint de l'Action catholique de la jeunesse féminine. Il a donné de nombreuses sessions, même des semaines au Centre des intellectuels catholiques qui existait autrefois. C'était très important, on avait ça aussi à Montréal. Et c'était un homme difficile à connaître dans un sens parce qu'il avait une extrême discrétion. C'était un homme profondément humble malgré son immense intelligence, son immense culture, car il ne parlait pas de lui-même, il parlait fort peu de lui. Il était relativement avare, comme on dit, de confidences. Il fallait insister pour les lui arracher. Charles Hélinger, qui l'a interviewé peu de temps avant sa mort, Charles Hélinger, c'est un journaliste assomptionniste, un Augustin de l'Assomption. Il dit, il ne parle de lui qu'avec humour et pudeur. Alors cette discrétion, cette réserve était l'expression, au fond, de cette espèce de dépouillement de soi qu'il avait, François Varion. Il y avait un total désintéressement, au fond, de sa propre personne. Il était tout entier dévoué aux autres, à sa tâche, à sa mission. Tous ceux qui l'ont apprécié ont été frappés d'ailleurs et émus de l'attention qu'il leur prêtait. C'est un homme qui partageait les préoccupations des gens avec lesquels il était. Il savait trouver les mots pour le dire. Que ce soit en parole ou bien par écrit, les idées chez lui tenaient une très grande place dans son existence. Mais il avait une personnalité absolument phénoménale. Il était intéressé à tout. Oui, à tout. Un esprit universel, au mouvement des idées, aux dernières créations littéraires, à la poésie, à la musique, au cinéma. Fantastique, hein? Et cette curiosité ne détournait pas François Varion, même de l'actualité. Il s'intéressait aux événements et à la politique, car il s'intéressait, disait-il, à l'histoire en train de se faire. Ça ressemble un peu à cet article qu'on a pu voir dans la presse hier au sujet du cardinal Turcotte, qui disait qu'il s'intéressait à la politique, aux événements d'aujourd'hui. Il lisait un ouvrage de Fernand Dumont sur intitulé « Raison commune » qui traite du projet de souveraineté. Il disait « L'histoire me passionne, particulièrement celle du Québec ». Mais dans ce même article, on est un peu surpris. Il dit qu'il s'intéresse beaucoup à Fernand Séguin, à Agatha Christie, à Simenon. On reste un peu surpris. Je pense que le journaliste n'a pas tout dit. Parce que j'espère que notre cardinal lit aussi François Varion, mais il ne l'a pas dit. S'il l'a dit, ça n'a pas été imprimé. Donc, c'est un homme qui s'intéresse à la politique aussi, il s'intéresse à l'histoire qui est en train de se faire, comme il dit, et il a des aptitudes, il a des talents phénoménales, parce que c'est un homme qui sait écrire, même quand il écrit des ouvrages comme ceux que je vous ai mentionnés au début, L'humilité de Dieu, que je vous recommande, et La souffrance de Dieu, deux ouvrages publiés aux éditions du Centurion. Je ne saurais assez vous les recommander tous les deux, c'est pas long, mais ça se lit à petite dose et c'est fantastique. Donc il s'intéressait aussi à la musique, c'était un musicien, pas simplement un ménomane, un musicien. On se souvient chez les jésuites qu'il exécutait au piano des partitions à quatre mains avec nul autre que Hans Urs von Balthasar, dont je vous parlerai un jour, ce grand théologien extraordinaire, que nous sommes les seuls au Canada à avoir entendu à la télévision, puisque c'est à Rencontre, cette émission que j'ai réalisée, c'est la seule émission qu'il ait faite dans sa vie, c'est-à-dire deux demi-heures à Rencontre. Et alors, ce conférencier qui était François Varion, ce philosophe, ce théologien, avait une personnalité profonde. C'est pas une personnalité éclatée, c'est une personnalité unifiée. En 1974, quatre ans avant sa mort, il a gagné le Grand Prix catholique de littérature grâce à son livre dont je viens de vous parler, « L'humilité de Dieu ». Dès son adolescence, il avait un très vif intérêt pour la chose écrite, la littérature. Il fallait que ce soit bien écrit. Et toute sa vie, il a lu de très bons livres littéraires. Ça l'intéressait. Jusqu'à la fin de sa vie, il exerçait d'ailleurs une espèce de critique littéraire orale dans des conférences mensuelles qu'il a données à Lyon, à Genève, à Paris. Il rendait compte de l'actualité littéraire, car il lisait chaque mois 5, 6, 7 romans ou essais, surtout des essais. Il exerçait un ministère qui l'apparente, je crois, à Bremond, la fameuse abbé Henri Bremond, qui est mort en 1933, qui était membre de l'Académie française, qui a écrit l'histoire du sentiment religieux en France, qui a aussi écrit ce bel ouvrage, La poésie pure, en 1926. C'était un grand critique, un historien, l'abbé Bremond. Vous savez qu'il y a eu des prêtres fantastiques au XXe siècle. On tend à les oublier. On devrait être reconnaissant. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de ce François Varion. Et alors, l'aspect le plus connu, assurément, chez lui, c'est comme commentateur et éditeur de Paul Claudel. Il avait découvert Paul Claudel, jeune étudiant, dans les années 20, en un temps où les fidèles de Claudel n'étaient pas très nombreux. La connaissance qu'il a eue des écrits de Paul Claudel fut pour lui une espèce d'immense illumination, une illumination contemporaine de la naissance de sa vocation, de sa décision d'entrer même dans la compagnie de Jésus. Il est entré, pour ainsi dire, presque avec Claudel, pourrait-on dire, si Claudel était entré en religion. Et c'est avec Claudel qu'il trouvait le souffle du génie poétique, une vision catholique du monde, la beauté de la création, le drame de la rédemption, une inspiration profondément religieuse. Il était tout à fait en accord avec Claudel. Il a écrit d'ailleurs ce livre, mais petit livre, dans la collection Les Écrivains devant Dieu, publié chez Desclés de Brouwer. Je prononce de Brouwer parce qu'en Belgique, on dit de Brouwer. Hein, c'est une édition belge. Donc, François Varion, un livre sur Claudel. C'est pas très long, ça a 150 pages environ. Mais remarquable, remarquable ouvrage sur Claudel. Il a publié bien d'autres choses sur Claudel, d'ailleurs. Mais je vous recommande celui-là, qui a été publié il y a longtemps. Donc, il fait plus tard la connaissance personnelle de Claudel à Brangues, à la campagne, ou son château, ou son manoir à Brangues. Il a reçu de Claudel cette mission étrange d'éditer après sa mort son journal. C'est un travail énorme qui s'est imposé. En somme, cette fidélité à Claudel ne s'est jamais écartée en 50 années d'existence, et depuis la découverte du début des œuvres de Claudel, eh bien, ça a mis spontanément sur ses lèvres telle ou telle citation de Claudel, qui n'était pas exclusive. Le père Varion n'était pas l'homme d'un seul écrivain. Il n'y avait pas moins sectaire que lui. Et dans tous les domaines, pas seulement dans ses admirations littéraires, il était un homme ouvert. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que dans ses goûts culturels, ses curiosités littéraires, ses sympathies artistiques, mais il y avait un écuménisme extraordinaire. Imaginez qu'en musique, il aimait presque autant Bach que Schoenberg, le maître de la dodécaphonie, que j'aime beaucoup moi aussi, Schoenberg. Appris à aimer Schoenberg à 14-15 ans, et ça ne m'a jamais laissé, Schoenberg et Alban Berg aussi. Et François Varion réconciliait Mozart et Wagner, hein, avec un petit doute de se reprocher le plaisir qu'il prenait à Wagner. C'est vrai que c'est très beau, Wagner. Hein. Et puis, il trouvait ça un peu suspect, son goût pour Wagner. Bon. L'éventail de ses prédilections s'étend à toutes sortes de choses. À Fénelon, il a écrit un livre sur Fénelon. Parce que Fénelon, hein, il faut dire que c'était le mystique du pur amour. Et c'est là qu'on voit Varion qui naît. Hein. François Varion disait de Fénelon, c'est un philosophe, un théologien, un humaniste, un poète, un homme accompli en vérité. Un jour, on vous parlera de Fénelon. Et alors donc, il parlait au fond de lui-même, parce que lui-même, François Varion, c'est un philosophe, un théologien, un humaniste, un poète et un homme accompli en vérité. Et il a écrit tellement de belles choses que je ne saurais toutes les citer. Il se plaisait à dire que toutes les années de la guerre et de l'après-guerre ont été pour lui une expérience incomparable, parce qu'il a participé à la création des cahiers de témoignages chrétiens, fameux témoignages chrétiens. Et pour ce jésuite, François Varillon, qui n'avait qu'une quarantaine d'années, c'était la découverte, la prise de conscience de tout un ensemble de problèmes qui ont profondément marqué sa vision du monde, puis sa relation entre l'Évangile et le siècle, ou le monde. Il est resté toute sa vie attaché jusqu'à son dernier jour aux amitiés qui s'étaient nouées à cette occasion-là. Il était associé avec abnégation et désintéressement à une recherche là qui avait été entreprise par des laïcs et des prêtres au temps de la guerre pour unir la foi et l'action. La foi et l'action. Il voulait mener de front, tous ces gens-là, l'approfondissement spirituel, puis l'engagement dans la vie. Pour eux, c'était très important. Et c'est vrai que c'est très important. Il n'y a jamais eu, ni dans la pensée, ni dans la pratique de François Varillon, la moindre dissociation en ce qu'on appelle quelquefois aujourd'hui l'horizontal et le vertical. Pour eux, pour François Varillon, les deux s'unissent, ça s'articule profondément. Il écoutait, il rappelait la signification, la bonté, l'inspiration de l'action. Et tout ça, ça guidait sa recherche de Dieu, et c'est en partie à l'occasion de cette expérience-là, qu'il a faite avec des adultes de toutes sortes, qu'il a été amené à s'interroger sur quoi? Sur la façon d'annoncer Dieu. C'est ça qui est important chez François Varillon, car il voulait faire connaître la parole de Dieu aux auditeurs d'aujourd'hui. Et par rapport à ce temps d'aujourd'hui, deux inquiétudes le saisissaient jusqu'au fond de son être. Deux exigences qui le motivaient. La première, c'est être compris de tous, être accessible à tous, trouver un langage qui permette d'être de plein pied avec les auditoires les plus variés. Cette préoccupation d'être compris l'a amené à élaborer d'abord en collaboration avec le père Congar, décédé récemment, ces fiches de culture religieuse qui devaient donner naissance à ces fameux éléments de doctrine chrétienne qui ont été repris par la suite dans la collection Livres de vie. Puis sa seconde inquiétude, c'était d'ordre proprement intellectuel. Il est assez rare, n'est-ce pas, de voir le même homme se poser le problème de l'audience populaire, là, être compris par les gens, et la rigueur intellectuelle, puis essayer de ne sacrifier aucune des deux. C'est très important de comprendre que François Varillon a été un des premiers, bon, je dirais pas le premier, parce qu'il y a eu avant lui Maurice Zundel, le cardinal Henri de Lubac, le père Gaston Fessard, qui lui ont frayé la voie. Il a été un des premiers à prendre au sérieux l'incroyance moderne. Il a voulu tenir compte, sous l'influence justement du père de Lubac, à qui il vouait une admiration profonde. Il a voulu tenir compte donc de l'influence de l'athéisme, du refus de l'aliénation qu'aux yeux de beaucoup, mais la croyance en Dieu entraîne pour l'homme. Croire en un Dieu Moloch, comme je disais tout à l'heure, qui demande des holocaustes épouvantables, ça éloigne de la foi bien des gens. En somme, François Varillon rejette, calmement, avec beaucoup de respect pour les autres, ce Dieu qu'on appelle le Dieu jupitérien. C'est comme ça qu'il l'appelait, le Dieu comme un Jupiter, n'est-ce pas? Il reconnaissait ce qu'il y avait de légitime dans la volonté de l'homme d'aujourd'hui, d'être autonome, et il n'a pas cessé depuis le moment où cette inquiétude s'est éveillée jusqu'à son dernier jour, de lire les philosophes, les anciens, les modernes. Il lisait Hegel, Nietzsche, Marx, les philosophes du soupçon, Sartre, les existentialistes, il essayait d'élaborer des réponses claires. Car il fuyait tout ce qui pouvait détruire la véritable image de Dieu qu'il nous livre dans ses ouvrages admirables. Et celui que je vous recommande peut-être le plus, c'est « Joie de croire, joie de vivre », publié au Centurion. Oh, c'est un gros livre de 300 pages, mais remarquable. Ce souci de répondre aux interrogations du monde contemporain, et d'apporter une réponse appropriée à ses exigences et ses inspirations. Ça l'a conduit à exercer un ministère original de la parole. Et Dieu, pour lui, est un être personnel. Dieu est amour. L'amour n'est pas un attribut de Dieu pour lui. Dieu est amour. Effectivement, on peut dire que Dieu est grand, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est infini, mais l'amour ne se situe pas au même plan, selon François Varion. L'amour n'est pas un attribut de Dieu, c'est l'être même de Dieu. Il faut donc substituer à Dieu le mot « amour ». C'est l'amour qui est infini, l'amour qui est tout-puissant, l'amour qui est transcendant. Et ce Dieu personnel n'est pas jaloux de notre liberté, il en est respectueux, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a voulu. Il est au principe de notre action. Il n'y a donc pas contradiction entre la reconnaissance de Dieu et l'affirmation de l'autonomie de l'homme, car il est au principe même de l'exercice de notre liberté. Et si Dieu est amour, il n'est pas un Dieu jaloux, il n'est pas le Dieu dominateur, ce n'est pas Jupiter. Entre deux êtres, quel est le plus démuni, le plus dépendant? Celui qui aime le plus. C'est celui qui aime le plus. Et c'est donc Dieu qui dépend de l'homme. Ça, c'est étrange. Hein? Cette percée théologique extraordinaire a été acclamée par Jean-François Six. Ça a été aussi acclamé par Étienne Borne, que l'on a pu voir aussi à Rencontre. Ah, les deux livres de François Varion, L'humilité de Dieu et la souffrance de Dieu, je voudrais que tout le monde puisse lire ces deux livres. Deux livres admirables. Deux livres qu'il faut absolument lire. Je ne saurais vous les recommander assez.